Merci. Du coup, on a eu effectivement beaucoup de joie ce matin à voir beaucoup de visages connus. Et donc, c'est bien que vous preniez ma rencontre en Marseille, dans des congrès, dans des week-ends. Et donc, beaucoup de joie à être à vous ce matin. Et donc, je vous salue depuis Marseille, l'église du CEP Marseille, qui est une église qui ressemble par beaucoup de points communs à votre église, je crois. Deuxième ou troisième ville de France, on ne sait jamais trop entre Marseille et Lyon, hein. Je suppose que vous dites deuxième ville de France et nous on dit deuxième ville de France aussi. Et que je ne suis pas marseillais d'origine, je laisserai d'autres trancher. Et le texte qu'on va lire ce matin, Jean 17, c'est un texte connu, c'est la prière que le Seigneur prie quand il pense à nous, juste avant de monter sur cette croix que nous avons célébrée ensemble ce matin. Et cela nous parle de trois dimensions. Trois dimensions qui font partie de notre ADN. Si on connaît Jésus, alors les trois dimensions dont on va parler, c'est notre ADN. Qu'on en ait conscience ou non, ça fait partie de qui nous sommes. Et pour ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Avant de lire le texte, j'aimerais vous poser une question pour que vous y réfléchissiez. Qu'est-ce qui nous pousse à agir dans la vie? Si on est réfléchi, qu'est-ce qui motive profondément nos actions? Alors, il y a plein de circonstances qu'on peut imaginer, hein, le matin quand on se lève, quand on vient à l'église, quand on est au travail, quand on est en famille, quand on est seul. Qu'est-ce qui, au fond de nous, nous motive pour agir? Il y a toujours quelque chose, en fait, hein, qui nous motive pour agir. La réponse la plus instinctive, c'est bah, c'est mieux ainsi, je fais de mon mieux. Mais en réalité, il y a des questions plus profondes dans nos motivations. Ça peut être nos intérêts personnels. Je fais ceci parce que je pense que c'est bien pour moi. Ça peut être nos croyances. Je fais ceci parce que j'ai l'impression qu'en faisant cela, cela répond à telle ou telle de mes croyances. Ça peut être un désir profond, quelque chose qu'on désire au plus profond de nous, bon ou mauvais parfois, qui nous pousse à agir. La passion, la peur, la honte, etc., etc. Alors nous verrons que ce texte qu'on va lire donne une réponse fondamentale à cette question finalement. Qu'est-ce qui devrait nous pousser à agir? Et c'est très pratique parce que ça nous permettra de dire: Seigneur, je désire aligner mes motivations sur qui je suis en toi. Et ça touche tous les domaines de nos vies. Dernière remarque sur le texte que nous allons lire, Jean 17, c'est Jésus, le Fils, qui prie. Le Père, en présence du Saint-Esprit, autrement dit, on est dans le QG de la Trinité. Il n'y a pas de volonté plus parfaite que ce qu'on lit là, parce que c'est la volonté de Dieu que Jésus prie pour nous. Donc si vous vous posez la question, est-ce que ce texte me concerne? Oui, parce que c'est clairement la volonté de Dieu, du Dieu trinitaire, pour vous et moi. Et je vous propose qu'on puisse lire ce texte. On va lire qu'un extrait, les versets 20 à 23, dans cette prière que le Seigneur prie devant ses disciples. Jésus prie ainsi: Je ne prie pas pour eux seulement, les disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà ce que le Seigneur prie quand il pense à nous avant d'accomplir l'impossible sur cette croix. Ce sont ses paroles pour nous. Il dit: Je ne te prie pas pour les disciples, mais pour ceux qui croiront sur leurs paroles. C'est bien vous et moi, probablement, si nous sommes là ce matin. Et donc, il y a quelque chose de très important. Et la première chose que je veux souligner, vous l'avez peut-être remarqué, ça revient dans la prière du Seigneur, qu'il soit, point de suspension, comme nous sommes. Autrement dit, quand nous réfléchissons à notre identité, nous devons tourner nos regards vers Dieu pour comprendre, en regardant Dieu, qui nous sommes. Parce que sa prière, c'est que nous devenions comme Dieu est. Non pas Dieu, mais à l'image de Dieu. Alors je l'ai résumé par un schéma. Ce que nous faisons est influencé par qui est Dieu. Parce que nous comprenons de qui est Dieu. On peut dire, ce que nous adorons influence notre manière d'agir. En fonction de ce qu'on adore, on va agir d'une manière différente. Moi, j'ai écrit ça sur mon bureau. Ce que tu adores influence ta manière d'agir. J'ai besoin de m'en rappeler. Dans les évangiles, la bascule dans la vie de Pierre, le disciple Pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est quand Jésus lui pose la question « Qui dis-tu que je suis ?» Et là, il y a une bascule dans la vie de Pierre. Ça y est, il comprend qui est Dieu, qui est Jésus. Et alors, sa vie se met à changer, ça influence ce qu'il fait. C'est un peu comme regarder, vous savez, un album de famille. Nos enfants, on leur donne l'habitude de regarder les photos d'enfance, des choses, des souvenirs qui constituent notre famille, qui constituent nos souvenirs. Et il y a quelque chose de bon parce que ça vient nourrir leur identité. Ils se rappellent qu'ils sont aimés, ils se rappellent qu'il y a des valeurs qu'on a partagées. Et quand on regarde l'album de famille, ça fait ça pour nos enfants. Alors parfois, j'ai conscience que quand on passe à nos propres familles, l'album de famille n'est peut-être pas très très joyeux. Mais ici, on peut regarder dans notre origine et regarder à Dieu pour se rappeler qui nous sommes. Comment on sait qui est Dieu ? Comment on sait qui est Dieu ? En regardant à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. C'est dans sa parole, mais c'est en regardant à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ que nous savons qui est Dieu. Christ est l'image du Dieu invisible. Si nous regardons ce que Christ fait, nous comprenons qui est Dieu. Fondamentalement, Dieu, il est amour et justice. Et quand nous regardons à ce que Christ a fait, il a accompli l'amour et la justice de Dieu. Comment ? Il a vécu une vie, comme vous et moi, sur cette terre, et il a accompli parfaitement tout ce qui est juste. Et il a démontré parfaitement tout l'amour de Dieu. Peut-être que tu es à la fois fasciné par l'amour de Dieu et par la justice de Dieu. Ces deux caractéristiques de Dieu qu'on a du mal à mettre ensemble. Dieu est amour et Dieu est justice. Il nous aime, il veut nous sauver, mais il est juste, il ne peut pas laisser le péché impuni. Et cela nous mène à ce que nous venons de célébrer ensemble. C'est à la croix que l'amour de Dieu s'est pleinement manifesté. Il nous a aimés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais sur la croix, la justice de Dieu s'accomplissait. Christ a été notre victime expiatoire. C'est lui qui a payé le prix que nous aurions dû payer. Nous l'avons célébré ensemble ce matin. Alors si tu as soif de cet amour, soif de cette justice, c'est à Christ, à la croix, qu'il faut regarder. Et peut-être parmi nous ce matin, il y en a qui n'ont pas pris la scène parce qu'ils n'ont pas encore accepté cet amour et cette justice. Et il y a une invitation à placer sa confiance en Jésus. J'avais 16 ans lorsque j'ai fait cela. J'étais un ado qui luttait avec mon propre cœur, qui luttait avec mes propres compromis. J'avais les cheveux longs, des pantalons très larges. Et puis Christ est venu me rencontrer dans son amour et dans sa justice. Et ma vie a changé après ça. Parce que lorsque nous comprenons qui est Dieu, ce qu'il fait en Jésus-Christ, alors notre vie change. C'est parce que nous comprenons qui est Dieu que nous savons qui nous sommes en Christ. Qu'il soit, point de suspension, comme nous sommes. Vous voyez ce principe ? Et je vous propose qu'on regarde le texte en regardant précisément de quoi Jésus prie pour nous. Qu'est-ce qu'il dit qu'il soit ? Et alors on pourra comprendre notre identité. Je vous donne juste un exemple pour comprendre ça. Peut-être qu'il y a des personnes anxieuses dans la salle. Je ne le suis pas particulièrement, mais j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça. Si je suis anxieux, je vais regarder les circonstances et cela va venir me mettre une pression forte sur mon cœur. Et l'anxiété va grandir et je vais l'exprimer peut-être de différentes manières. Par la peur, par l'angoisse, en somatisant. Mon sommeil peut être touché. Il y a plein de manières d'exprimer l'anxiété. Si je regarde à qui est Dieu, et donc pour savoir qui est Dieu, je dois regarder, si vous m'avez bien suivi, à ce que Dieu a fait en Christ. Le moment le plus angoissant de toute l'humanité, à quel moment est-ce que ça se passe ? L'angoisse la plus profonde, c'est à Gethsémané. On voit Christ qui a connu lui-même une angoisse, au point que quand il était angoissé, des caillots de sang sortaient des pores de sa peau. Phénomène connu en médecine. Il a connu l'angoisse la plus intense que nous pourrions connaître. Et que s'est-il passé ? Il a vaincu, il est mort, mais il a vaincu par la résurrection. Il a accompli parfaitement ce qui était nécessaire. Alors lorsque nous regardons à Christ, nous comprenons que lui qui a connu l'angoisse et qui a été vainqueur, il est celui vers qui nous pouvons nous tourner face à nos propres angoisses. C'est ce que nous avons célébré ce matin avec le psaume de David. Et vous voyez que lorsqu'on comprend qui est Dieu, lorsqu'on comprend qui est Christ, qu'on l'adore pour qui il est et ce qu'il fait, alors nous sommes secourus et nous trouvons des forces dans le Saint-Esprit pour nos propres situations. Je pourrais parler du pardon. Peut-être que parmi nous, il y en a qui luttent avec le pardon. C'est trop dur ce qui m'a été fait. Ce que j'ai subi, je ne peux pas. C'est impossible. Et il y a des pardons qui sont impossibles à accorder. Quand on regarde à Dieu, quand on regarde à Christ, sur la croix, que dit-il ? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a été l'auteur d'un pardon qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Et lorsque nous regardons à lui, nous pouvons comprendre que nous aussi qui avons été pardonnés, nous pouvons pardonner à notre tour. Non pas avec nos propres forces seulement, mais par la vie de Christ en nous. Il nous a donné son esprit, et c'est son esprit qui nous rend le pouvoir de pardonner. Je pourrais donner plein d'exemples qui montrent ce principe-là, mais je vous propose d'aller regarder les deux thèmes dont il est question dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Alors si vous répondez avec moi, qu'est-ce que Jésus prie ? Que nous soyons quoi comme lui est ? J'ai pas entendu. Un ! Vous l'avez lu comme moi. Qui est Dieu ? Dieu est un. Il est un Dieu, trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit, mais un seul Dieu. Voilà qui est Dieu. Dans son identité même, il est communauté. Mais cette communauté est une, il est uni. C'est un concept que nos enfants peuvent comprendre à l'âge de 5 ans, mais à 43 ans, j'ai toujours besoin de méditer là-dessus, parce qu'on est devant un mystère révélé, qui n'est plus un mystère, mais un mystère quand même, qui dépasse notre entendement, mais on peut le comprendre. Dieu est un. Il est communauté dans son identité même. Comment est-ce que l'on le voit en Christ ? Christ a été l'auteur d'une alliance, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Dieu a ouvert ses bras, les bras de la Trinité, pour nous inviter à faire partie de cette famille. C'est la manière dont Dieu crée en Genèse 1 et 2. Il ouvre les bras de cette Trinité pour que nous devenions ces créatures qui pouvons le connaître. Les choses ont été brisées à cause du péché et l'histoire de l'humanité a été lourdement impactée. Mais Christ est venu et il a fait cette nouvelle alliance afin que nous puissions de nouveau être un avec Dieu, réconciliés avec Dieu. Mais pas seulement avec Dieu, le texte le dit que nous soyons un entre nous, ensemble. Et ces deux choses sont liées. Hein. Bon, il y en a plusieurs qui ont levé la main ce matin, mais il faut bien dire qu'on s'est déjà croisés. On ne se connaît pas bien. Il y en a quelques-uns ici avec qui j'ai des souvenirs depuis longtemps, au Bénin notamment, mais on ne se connaît pas bien. Pourtant, ce matin, on a vécu, quand on s'est salué, un amour qui est miraculeux. C'est Dieu qui nous unit. Nous partageons l'éternité ensemble. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est Christ qui l'a rendu possible. Et lorsque nous regardons à Christ, alors nous savons qui nous sommes. Nous sommes un avec Dieu et un les uns avec les autres. Cela ne vient pas de nous. C'est quelque chose qui nous est donné en Christ. C'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Et alors ça impacte ce que je fais, puisque lorsque je comprends mon identité, je suis invité à l'unité avec Dieu et les uns avec les autres. C'est ce que nous vivons ce matin lorsque nous sommes réunis. Nous avons vécu l'intimité avec Dieu, nous avons loué Dieu, nous avons prié Dieu, nous avons partagé la scène, mais nous l'avons fait ensemble, unis les uns aux autres. C'est notre identité. Mais est-ce que c'est notre identité que le dimanche matin ? Vous êtes d'accord avec moi ? L'ADN, ce n'est pas juste pour un temps. L'ADN, c'est qui nous sommes. Quelqu'un a dit « Arrêtez d'aller à l'église !» Soyez l'Église. Et c'est qui nous sommes? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas venir le dimanche, vous m'avez compris. Hein. Les anciens vont venir me voir après. Mais nous sommes l'Église, que nous soyons rassemblés comme en ce moment, ou que nous soyons dispersés comme nous le serons demain matin, nous serons toujours unis à Dieu, un avec Dieu et un les uns avec les autres. Deuxième chose qu'on voit dans le texte, je vous laisse le lire, je ne vais pas le relire. Quelle est la deuxième chose que Jésus prie pour que nous lui ressemblions? Est-ce que vous le voyez? La première chose, c'est que nous sommes un, mais il y a une deuxième chose qui coule du fait que nous sommes un et qui fait partie de notre identité. Allez-y, hein, on peut se tromper, juste on regarde ensemble. Je me rends compte que je vous ai souligné le même texte que tout à l'heure. Non, c'est bon. C'est moi qui mes notes qui n'étaient pas bonnes. Alors, est-ce que vous le voyez? On est témoin. Exactement. Dieu est un Dieu missionnaire. Dieu n'est pas resté dans son trône de gloire. Il est venu jusqu'à nous. Christ a quitté son ciel de gloire. C'est ce que Christ a fait. Nous le voyons en Christ. Christ a quitté son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous. Et qu'est-ce que les évangiles nous disent quand Jésus fait des miracles ? Le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Dieu fait venir son royaume jusqu'à nous. Il est un Dieu missionnaire. Je connais quelqu'un qui est parti en Australie pour fuir Dieu. Devinez quoi ? Vous connaissez l'histoire ? Dieu l'a poursuivi jusqu'en Australie. C'est loin l'Australie. Hein. Et c'est comme ça qu'elle a pu connaître ce Dieu missionnaire. Et si vous pensez à vos propres histoires, je suis sûr que vous pouvez réaliser comment Dieu a été un Dieu missionnaire avec vous. Il est venu vous rejoindre là où vous étiez, dans vos histoires. C'est ce que Dieu fait et c'est ce que Christ a fait. Il est venu jusqu'à nous. Alors, de la même manière, cela parle de notre identité. Nous sommes en mission. Nous sommes les représentants de Dieu pour l'avancement de son royaume. Et je ne parle pas que des évangélistes ou des pasteurs ou des anciens. Quand Jésus prie, il ne dit pas « Je ne te prie pas pour les disciples, mais pour les anciens, les pasteurs. » Non, il dit « Pour ceux qui croiront en leur parole. » Nous tous. Voilà notre identité. Nous sommes envoyés, nous sommes en mission. Et cela touche à ce que nous faisons, nous sommes envoyés dans le monde. Et là, nous touchons à l'ADN de qui nous sommes. Il y a dans ce texte Deux mouvements. Ah, je les enlève. Mince, je les ai mis trop tôt. Quel est le premier mot, je voulais vous poser la question. Quel est le premier verbe, le premier ordre que Jésus donne à ses disciples? Le premier. Venez. Alors, il y en a qui sont allés trop vite, là. Vous vous rappelez, c'est des pêcheurs. Ils sont au bord de l'eau et Jésus leur dit, venez, venez à moi. Et cette parole va être répétée. Vous voyez, il y a une invitation de Dieu qui fait alliance avec nous. Il nous dit, venez. Une invitation à être un, à vivre l'intimité avec lui. Et lorsqu'on accepte cette invitation, il y a une deuxième dimension, nous devenons un les uns avec les autres. Donc intimité avec Dieu, mais aussi intimité les uns avec les autres. Bon, maintenant, quel est le dernier verbe que Jésus a dit à ses disciples? Cette fois, c'est bien « aller ». On est à Matthieu 28. « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc vous voyez que Jésus inscrit notre identité dans ces deux réalités. Une invitation à nous arrêter, à faire silence et à nous connecter à Dieu. C'est cette invitation que Dieu fait chaque jour. « Viens, est-ce que tu es venu à moi ce matin ? Ou est-ce que tu as foncé dans ta journée ?» sans même penser à moi. Et Dieu nous invite à cette intimité avec lui. Mais en même temps, Dieu nous dit « Allez !» après nous avoir invités à venir. Alors, j'espérais trouver une guitare, mais je ne vais pas désaccorder la guitare. Il y en a peut-être une là-bas, mais je ne vais pas commencer à faire ça. Mais imaginez une guitare. Vous prenez une corde et vous détendez la corde. Peut-être qu'il y a des musiciens là. Si vous voulez changer une corde, vous devez la détendre. Et là, si vous jouez sur la corde, ça fait flop. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la musique de la corde commence à chanter? Il faut tendre, il faut accorder, il faut tendre qu'il y ait de la tension entre les deux extrémités de la corde. Eh bien, il y a une tension fertile, fructueuse, entre le « venez » et le « aller » dans nos vies. Nous sommes invités à venir à Dieu. C'est l'appel à la conversion. Mais pas seulement. Jésus, tous les matins, il se levait tôt. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il répondait à l'invitation de son Père Céleste à venir à lui. Il allait sur la montagne, dans le désert, et il passait du temps avec lui, parfois des nuits entières. Jésus venait à son Père. Et nous sommes invités, nous aussi, à vivre cette dimension de venir à Dieu. Pas seulement seul, c'est venez, c'est au pluriel. Nous sommes un avec Dieu, mais nous sommes un les uns avec Dieu. Les autres. Et nous sommes invités à nous connecter les uns aux autres. J'ai aimé la manière dont vous priez les uns pour les autres. Ça répond à ça. Venez, venez ensemble. Portez vos fardeaux les uns des autres. Encouragez-vous les uns les autres. Il y a énormément de les uns les autres dans la Bible. Ça nous parle de cette partie de notre identité. Et le aller, c'est le fait que nous sommes envoyés, que nous sommes des images de Dieu. Là où Dieu t'a placé demain matin, je ne sais pas où tu seras demain matin à 10h. Pense-y, demain matin à 10h, tu seras envoyé par Dieu. Ton collègue pourra dire « Le royaume de Dieu est venu jusqu'à moi ». Mais je ne plaisante pas, hein, parce que c'est vraiment notre ADN. Dieu nous envoie pour faire connaître son royaume. Attention, hein, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas avec nos propres forces, il ne s'agit pas de nous, mais de ce que Dieu fait en nous. Ce que Christ fait en nous par son esprit. Mais ça parle de qui nous sommes. Vous le voyez? C'est notre identité. C'est qui nous sommes. Nous avons cela en commun. Probablement, nous allons l'exprimer de manière différente demain, parce que nous sommes différents. Nous avons des appels et des dons différents. Mais c'est notre identité. Je vous le montre d'une autre manière, pour le retenir. Parce que le but, c'est qu'on puisse retenir ça pour cette semaine. Deux directions fondamentales. Est-ce que vous les avez en tête? C'est quoi ces deux directions fondamentales? Venez et allez. La corde de la guitare. Et puis trois dimensions relationnelles. Avec Dieu, les uns avec les autres et avec le monde. Voilà les trois dimensions relationnelles dans lesquelles notre identité est impactée. Nous sommes en mission, nous sommes envoyés, mais nous sommes aussi appelés à venir boire à la source chaque jour, en chaque occasion. une autre manière de présenter les choses qui nous a beaucoup impacté en tant que famille. Je n'aurai pas le temps de vous le raconter maintenant, mais Dieu voulant, lors du week-end d'église, ce sont des choses dont on pourra reparler et on pourra donner des anecdotes à ce sujet, des choses qui nous ont beaucoup impacté. Mais vous voyez, c'est une autre manière de le retenir facilement. Du côté « venez » là-bas, il y a cet appel à se connecter à Dieu et à se connecter les uns aux autres, les chrétiens entre nous. C'est une grande partie de notre identité. Nous sommes appelés à être connectés à Dieu, connectés les uns aux autres. Mais en même temps, nous sommes appelés à nous connecter au monde. Dieu dit dans cette prière, Jésus dit dans cette prière, ils n'appartiennent pas au monde, mais je ne vais pas les enlever. Je les y envoie. Nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous y sommes envoyés. Et ça, c'est la dimension « aller ». Donc c'est facile à retenir ces trois mots, hein, Dieu, les uns les autres, et puis le monde, c'est ça notre identité. Alors on aime bien les mots anglais, désolé pour ceux qui n'aiment pas les mots anglais, mais c'est hyper facile à retenir comme ça. Vous voyez, « up », vers le haut, ça nous rappelle notre connexion à Dieu. C'est une des dimensions de notre identité. « In », c'est l'intérieur, c'est le fait que nous sommes connectés les uns aux autres. Et puis « out », c'est le fait que nous sommes envoyés dans le monde. C'est important de distinguer ces trois choses. De la même manière qu'il est important de distinguer le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la Trinité. Mais nous devons les distinguer sans trop les séparer. Parce que vous voyez bien que ces trois dimensions sont intimement liées. Il y a une priorité. C'est parce que nous sommes connectés à Dieu que nous sommes connectés les uns aux autres. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes connectés à Dieu et connectés les uns aux autres ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde saura qui nous a envoyés. Et vous voyez qu'on ne peut pas le détacher. Si nous vivons notre dimension communautaire avec Dieu et les uns avec les autres, nous devons le faire sous le regard des autres, pour qu'ils sachent qui nous a envoyés. Alors, je n'ai pas le temps d'aller très loin maintenant, on le fera au week-end d'église, mais imaginez que vous invitiez des voisins chez vous. Et imaginez que ces voisins viennent manger chez vous. Imaginez maintenant que vous invitiez une famille amie de l'église. Ça commence à faire trois familles autour de la table. On peut éventuellement faire juste un apéritif. Ça dépend de la taille de la maison. Qu'est-ce qui se passe dans la circonstance que je suis en train de décrire ? On a des chrétiens qui sont ensemble, et puis on a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Imaginez maintenant qu'avant de recevoir nos amis qui ne connaissent pas Dieu, on se connecte à Dieu en disant « Seigneur, on se souvient de ce que tu as dit en Jean 17, et nous te prions que ta volonté soit faite. » QG de la Trinité. Nous te prions que ta volonté soit faite dans ce qui va se passer maintenant. Nos amis qui ne connaissent pas Jésus viennent, et qu'est-ce qu'on leur donne de pouvoir goûter ? À l'amour que nous avons les uns pour les autres. Le Saint-Esprit agit lorsque nous sommes réunis, comme nous le faisons ce matin. Et nous pouvons nous en attendre à ce qu'ils se disent, mais il y a quelque chose quand même dans leur relation, dans leur amitié, à ces quatre-là, à ces trois-là, qui m'interpelle. Parce que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde saura. Et quand on comprend ça, ça change notre mode de vie. Ça change notre manière de vivre l'Église, la dynamique familiale de l'Église, de vivre nos propres familles, parce que c'est notre identité. Et je vais m'arrêter pour ce matin en peut-être nous posant quand même ces questions. Et peut-être tu peux y réfléchir pour toi-même, en regardant ce triangle. Si tu devais faire le bilan dans ces trois dimensions, comment tu évaluerais ton intimité avec Dieu ? En ce moment. Comment tu évaluerais ton intimité avec tes frères et sœurs en Christ ? Comment tu évaluerais ton implication dans la mission de Dieu ? Et en pensant à ça, ne soyons pas culpabilisés, parce qu'il ne s'agit pas de nos forces, mais de Christ en nous. Et quand nous réfléchissons à ça, nous pouvons dire « Seigneur, oui, pardon, parce que je ne vis pas ces choses comme je devrais les vivre. » mais que ta volonté soit faite maintenant. Fais cela dans ma vie. En priorité, cette semaine, prenons du temps pour nous connecter à Dieu. On le sait, mais on l'oublie tellement facilement. Posons la question à Dieu, comment est-ce que je peux me connecter d'une manière pratique à des frères et sœurs en Christ ? Peut-être en envoyant ce mail à Evelyne. Mais soyons à l'écoute de Dieu, de comment il veut faire vivre ça dans nos vies. Et puis demain à 10h, mettez une alarme pour vous en rappeler. Moi j'aime bien faire ça. Ma montre sonne et ça me rappelle, ah réveille-toi ! Dieu est là. Et Dieu veut être là dans ce que je vivrai demain à 10h. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ta parole, pour cette prière que tu as faite pour nous, nous concernant. Merci parce qu'elle parle de nous, elle parle de qui nous sommes en toi, mais elle parle de ce que toi tu as fait. Quelques heures après avoir prononcé ces mots, tu pendais sur cette croix. Le sang coulait sur ton corps à cause des coups que tu avais reçus. Tu étais épuisé, tu avais connu l'angoisse et maintenant tu allais connaître l'abandon. Tu as été abandonné pour que nous ne soyons jamais abandonnés. En mourant sur cette croix, tu portais le poids de notre péché. Et tu es mort, tu t'es fait péché pour nous. Tout a été accompli. Et tu es ressuscité, vainqueur. Tu es ressuscité, démontrant que la mort, le diable et le péché avaient été définitivement vaincus. Et en ressuscitant, tu ouvrais un chemin qui nous était inaccessible jusque-là. Un chemin vers le Père, l'intimité avec Dieu. Et tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as envoyé ton esprit pour que nous puissions dire et expérimenter. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous te prions ce matin, Seigneur, que, alors que nous regardons à qui nous sommes, à ta volonté pour nous, cela vienne nous impacter et qu'on puisse t'adorer. Et qu'en t'adorant, nous changions notre manière de faire là où tu nous appelles à te laisser régner dans ces trois dimensions. Seigneur, que tu bénisses ta parole, que tu bénisses cette semaine, que nous puissions nous connecter à toi, nous connecter les uns aux autres et être des témoins dans le monde, non pas avec nos propres forces, mais avec les forces que tu nous donnes, toi qui vis en nous. Nous voulons répondre à ce double appel de venir à toi et d'aller dans le monde comme tes témoins. Que tu bénisses, Seigneur, ta parole, mais aussi nos vies qui obéissent à ta parole et qui se laissent transformer par elle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.